Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 3 janvier. Bonne année à toutes et à tous et restez prudents en 2021. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de 7 heures en français, le journal, les sports, le personnage de la semaine. On parlera de cinéma, du film How to be a good wife qui passe en ce moment sur les écrans en Australie. Il est 13 heures, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce dimanche 3 janvier, les masques sont désormais obligatoires à l'intérieur en Nouvelle-Galles du Sud et 8 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés depuis hier. Les préoccupations concernant les retards des vaccinations en Grande-Bretagne, 5 joueurs de cricket indiens en isolation après avoir enfreint les règles de biosécurité de Cricket Australia. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 8 nouveaux cas de Covid-19 ce dimanche. 5 de ces cas sont liés au cluster de Berala qui compte désormais 13 cas et 2 des cas d'aujourd'hui étaient des cas précédemment rapporté lié au cluster de Avalon qui compte désormais 148 cas. Le médecin en chef, Dr. Kerry Chant, déclare que ce qui l'inquiète le plus, ce sont les personnes qui ont visité le magasin d'alcool BWS à Berala à plusieurs dates entre le 22 et le 31 décembre. Selon elle, ces personnes doivent se faire tester rapidement et rester en isolation.
We know that also those transmission events occurred through what appear to be very brief exposures at that venue. So this advice is for people who attended during these times, irrespective if they think it was just a fleeting visit to this premises. We want to act in a very precautionary way and we are asking for your assistance.
Le Victoria a enregistré 3 nouvelles infections au Covid-19, portant le total à 32 cas actifs. Plus de 22 480 tests ont été enregistrés hier. Les 3 nouveaux cas sont tous liés au cluster de café de Black Rock, avec 220 cas de contact confirmé. Le commandant du programme des tests de Covid-19 dans le Victoria, Jerome Waymar, conseille aux gens de consulter le site web de Victoria Health pour voir une liste des sites visités par les cas confirmés.
We do have 51 exposure sites listed on our website. That is a significant number of exposure sites, and of course it highlights that with the 21 cases in this cluster at the moment, that people do rightly travel around quite extensively at this time of year.
Jerome Waymar a déclaré que 60 000 personnes étaient revenues dans le Victoria de la Nouvelle-Galles du Sud ces derniers jours. Il y a 190 sites de tests pour le COVID en opération dans le Victoria. Les projets de voyage de vacances à travers le pays continuent d'être annulés alors que les États et les territoires referment leurs frontières pour empêcher la propagation du Covid-19 depuis la Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria. L'ACT a exclu les résidents de Nouvelle-Galles du Sud, des Northern Beaches, de Greater Sydney, du Central Coast et de Wollongong, à moins qu'ils ne bénéficient d'une exemption. La Tasmanie a interdit à toute personne directement liée au dernier cas du virus dans le Victoria de venir dans l'île. Le Victoria a fermé sa frontière avec la Nouvelle-Galles du Sud. Le ministre de la Santé du Victoria, Martin Foley, affirme que l'État fait ce qui est juste pour ses résidents.
The now genomic proof is in the pudding. That's the science. And it's up to both Victoria and New South Wales to work together to get on top of it. And it will take some time, but the harder and the quicker we go, the quicker we will get on top of it. And I don't think Victorians would expect, given all that we've sacrificed last year, I don't think Victorians would expect anything else.
La Grande-Bretagne permettra à ses citoyens de se faire vacciner avec les différents vaccins contre le Covid-19 malgré le manque de preuves de leur efficacité. Le gouvernement a également annoncé un plan visant à retarder la distribution généralisée de la deuxième dose de vaccin afin de vacciner davantage de personnes. Cela signifie que les patients peuvent attendre jusqu'à 12 semaines entre les injections plutôt que les 3 semaines recommandées. Le Covid-19 a tué plus de 74 000 Britanniques alors que le système de santé atteint sa capacité avec la réouverture des hôpitaux d'urgence cette semaine. Pendant ce temps, l'expert américain des maladies, Dr Anthony Fauci, déclare qu'il n'est pas d'accord avec le plan du Royaume-Uni de retarder la deuxième dose du vaccin. Selon lui, cette approche n'a pas été testée.
We know from the clinical trial that the optimal time is to give it on one day and then for Moderna 28 days later and for Pfizer 21 days later.
L'Inde a approuvé le vaccin Covid-19 développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford, ouvrant la voie à une vaste campagne de vaccination dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. Le pays espère vacciner 300 millions de ses habitants au cours des 8 premiers mois de cette année. Aux États-Unis, le Covid-19 est bien plus de 20 millions de cas d'infection recensés selon l'université Johns Hopkins. Les précisions de Vincent Sourieux pour Radio France Internationale.
En décembre, 77 000 personnes sont mortes du Covid-19 aux États-Unis, soit un cinquième des décès constatés depuis l'apparition de la maladie sur le sol américain. C'est un chiffre inédit qui va de pair avec l'envol des contaminations. 6 millions de cas recensés ces 30 derniers jours et le pire n'est pas encore là. On s'attend à ce que ce nombre grimpe en flèche à la suite des fêtes de Noël et de ces très nombreux rassemblements familiaux, sans parler du nouveau variant importé du Royaume-Uni qui vient d'être repéré dans au moins 3 États très peuplés, la Californie, la Floride et le Colorado. Les médecins sont sûrs que cette nouvelle forme très contagieuse du virus s'est répandue de manière massive sur tout le territoire puisqu'elle touche des individus plus jeunes et plus actifs, susceptibles de se déplacer fréquemment dans le cadre de leur travail. Donald Trump avait promis 20 millions de vaccinations au 1er janvier 2021. On en est loin. À ce jour, moins de 3 millions de patients ont reçu leur première injection. Les établissements de santé manquent de personnel qualifiés et formés pour faire des piqûres en grand nombre dans un délai très court.
En France, une rave party a réuni près de 2500 personnes dans l'ouest du pays, malgré la menace d'une nouvelle flambée de Covid-19. Précision de Marie Casadebé pour RFI.
Les organisateurs de ce genre d'événements sont des professionnels de la discrétion. Ils utilisent des messageries cryptées, prévoient plusieurs plans en cas d'échec et précisent toujours à la dernière minute le lieu choisi. L'information va alors très vite sur les réseaux sociaux. Le préfet d'Ille-et-Vilaine le reconnaissait lors d'une conférence de presse. La gendarmerie n'a eu vent de la rave party que lorsque celle-ci a commencé. Pour un ancien des renseignements généraux, spécialisé dans les free parties pendant près de 15 ans, ce n'est pas étonnant. Ce genre d'événement n'est pas dans le viseur des renseignements territoriaux, puisqu'il n'est pas considéré comme une atteinte à la sûreté de l'État. Les rave parties sont donc généralement du seul ressort de la gendarmerie locale. Une fois que les sonos sont en place, il est presque impossible d'empêcher la fête, surtout lorsque le nombre de participants est aussi important. Quelques 150 gendarmes étaient présents sur les lieux dans les premières heures. Pas de quoi freiner 2500 personnes ultra motivées. Pour notre expert, une intervention des forces de l'ordre devient vite trop dangereuse. Le cocktail stupéfiant, alcool et fatigue démultiplie les risques de dérapage. Il ne reste donc qu'à limiter les risques sanitaires avec cette année le Covid-19 qui s'est ajouté à la liste habituelle, d'où le déploiement de secouristes aux abords du site.
Écoutez la réaction de Stéphane Muliez de l'Agence régionale de santé en Bretagne. Il s'inquiète des retombées de cette fête.
À titre préventif, il faut qu'on considère que l'ensemble des participants à cette rave party ont été exposés avec un fort risque d'exposition au virus. Et donc ce qu'on demande, c'est que toutes les personnes qui ont participé à cette rave party, qu'elles puissent s'isoler strictement à leur domicile pendant 7 jours, sans attendre de symptômes ou sans attendre de faire un dépistage et aller se faire dépister le 7e jour après cet isolement, après cette dernière exposition au risque. Les comportements ont été irresponsables du point de vue sanitaire. J'appelle un retour au civisme et un retour aux prescriptions sanitaires. Et en effet, je souhaite clairement que ce soit observé, même si malheureusement tout le monde ne le fera pas. On peut le craindre en effet.
Au Mali maintenant, avec deux soldats français tués dans la région de Ménaka, Yvonne Wynne, 33 ans, est la première femme de l'armée française tuée au Sahel depuis l'intervention Serval en 2013. Écoutez l'analyse de Victor Moria pour RFI.
L'attaque a eu lieu ce samedi matin alors que les deux soldats se trouvaient en mission de renseignement et de reconnaissance. Selon l'état-major des armées françaises, ils étaient en compagnie d'un autre soldat à bord d'un véhicule blindé léger qui est entré en contact avec un IED, un engin explosif improvisé. Malgré les soins immédiatement reçus par les trois militaires, deux d'entre eux, un homme et une femme, n'ont donc pas survécu. Selon l'armée française, les jours du troisième soldat ne sont pas en danger. Le mode opératoire est en tout cas, d'après les termes utilisés par l'état-major français, similaire à l'attaque qui avait coûté la vie à trois autres soldats le 28 décembre dernier. Celle-ci avait eu lieu plus à l'ouest, dans les environs de Hombori. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui sévit dans la région avait revendiqué cette attaque quelques heures avant le décès de ces deux nouveaux militaires français. Dans un communiqué, la ministre des Armées, Florence Parly, a rappelé que la France continuerait sa lutte acharnée contre les groupes qui sèment la terreur et chaos au Mali et au Sahel. Fin de citation.
Et puis à la frontière entre le Niger et le Mali, il y a eu une attaque djihadiste. Des dizaines de villageois ont été tués. Reportage de Moussa Kaka pour RFI.
Ce sont deux villages de la commune de Mangaizé, de la préfecture de Wallam, qui ont été les cibles de djihadistes, Champongou et Zaroum Darey. Tout a commencé à la mi-journée par l'incursion de deux djihadistes à moto dans le village de Champongou. Des jeunes du village organisés en autodéfense les ont neutralisés, puis achevés à la machette. Des représailles sont vite organisées par plusieurs dizaines de djihadistes venus à moto. Le dernier bilan fait état de 70 villageois tués et plus de 20 blessés ont été dénombrés. Les autorités régionales de la zone et des sources sécuritaires bien informées confirment les massacres dans les deux villages visités par les djihadistes. Pour rappel, ces deux villages de Champongou et Zaroum Darey se trouvent dans la même zone que la brigade de Tongo Tongo, où il y a trois ans, des soldats des forces spéciales américaines et nigériennes ont été tués par des djihadistes. Avec ces descentes de djihadistes dans ces villages sans défense, les risques de conflits intercommunautaires ne sont pas exclus. Selon le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Hada, le gouvernement travaillera pour que ça ne se généralise pas. Une mission délicate de la haute autorité à la consolidation de la paix qui multiplie les actions de développement dans ces zones de conflit.
Retour en France où quelques centaines de personnes ont manifesté à Paris hier à l'appel de l'association Droit au Logement pour demander au gouvernement la réquisition de 7 immeubles vides de la capitale. Reportage de Kevin Gassner pour RFI.
Nadia Aloun vit dans une chambre d'hôtel parisien de 14 mètres carrés dans des conditions insalubres. Depuis 2005, elle ne connaît que des logements précaires.
Il y a les cafards, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de ferme de ménage, il n'y a rien.
Cette Algérienne de 56 ans est handicapée. Malgré ses démarches en 15 ans, rien n'a changé pour elle.
Ils n'ont rien fait. Moi, j'ai fait la demande de la mairie. 2005 jusqu'à maintenant, je fais d'Alou. 2008, il n'y a toujours rien.
Fatiguée, démoralisée de ne pas pouvoir accueillir ses deux enfants, elle s'en remet au pouvoir des associations. Mi-décembre, elles ont demandé la réquisition par l'État de 7 immeubles vides à Paris. Au total, en Ile-de-France, 400 000 logements sont vacants. Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de l'association Droit au Logement.
On ne peut pas laisser des sans-abri mourir à petit feu dans la rue. C'est comme si on détruisait de la nourriture sous les yeux des affamés.
Des réquisitions pour répondre à l'urgence, mais les associations demandent la construction de logements sociaux et une baisse des loyers.
En Australie, 5 joueurs de cricket indiens sont isolés pour une violation potentielle du Covid-19. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant les 5 joueurs en train de dîner dans un restaurant de Melbourne. Selon les protocoles de biosécurité de Cricket Australia, les joueurs ne sont autorisés à manger que dans les restaurants avec une terrasse en plein air. Les 5 joueurs seront séparés des deux équipes lors de leur déplacement et de leur entraînement au Sydney. Sydney Cricket Ground. Cela intervient alors que le président de l'Association médicale australienne, Dr Omar Khorshid, demande aux responsables de New South Wales Health à interdire les spectateurs à venir au stade SCG lors du prochain test match entre l'Australie et l'Inde. Ce test match qui commencera le jeudi 7 janvier prochain.
This is a health crisis and the health of New South Wales people must come first. The smart thing to do is to hold the test without a crowd. If the crowd's going to be there, then certainly masks should be worn.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 33 degrés. Adélaïde, 27. Melbourne, 24. Hobart, 21. Canberra, 24. Sydney, 27. Brisbane, 29. Cairns, 32. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 38 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 3 janvier, les masques sont désormais obligatoires à l'intérieur en Nouvelle-Galles du Sud. Les préoccupations concernant les retards des vaccinations en Grande-Bretagne. 5 joueurs de cricket en isolation après avoir enfreint les règles de biosécurité de Cricket Australia. Fin du journal et merci de rester avec nous. Et tout de suite après, Clara Luciani nous interprète l'abbé.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le Vendée Globe. Yannick Bestaven est le premier à passer le Cap Horn hier devant Charlie Dalin. Écoutez Yannick Bestaven et ensuite Antoine Grenier pour RFI.
À toute allure, Yannick Bestaven a franchi le Cap Horn en première place du Vendée Globe. Le tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Après 55 jours et 22 minutes de course à 13h42, temps universel, le skipper de Maître Coq a donc été le premier à passer le dernier cap de la course, le point le plus au sud de l'Amérique du Sud. Place maintenant à la remontée de l'Atlantique, direction les Sables d'Olonne et l'arrivée. Ça ne sera pas avant quelques semaines, mais comme vous pouvez l'entendre, lors d'une vacation radio avec le site du Vendée Globe, le marin de Saint-Nazaire ne cachait pas sa joie.
Il est à 14h TU et Maître Coq vient de franchir la longitude du Cap Horn à 80 000 dans son sud, mais je ne l'ai pas vu, mais on l'a bien passé. Waouh! C'est la sortie des mers du sud, même si le vent fort va encore m'accompagner quelques heures. On va pouvoir mettre bientôt le clignotant à gauche et remonter vers la maison. Well done! En tête au Cap Horn! Tchaï! Dans une mer démontée avec 45 nœuds de vent et 8 mètres de creux. Parfait quoi, un vrai Cap Horn.
Yannick Bestaven, le skipper du Vendée Globe, premier donc au Cap Horn dans cette édition. Au dernier pointage, il devançait Charlie Dalin de 160 000 nautiques.
On passe au foot avec des matchs en Angleterre. Il y avait 4 matchs. Tottenham qui a battu Leeds 3-0 et qui passe à la 3e place. Il y a eu aussi la belle victoire de Arsenal 4-0 contre West Bromwich Albion. Et puis en Écosse, il y avait un match spécial hier, 2 janvier, entre Celtic et Rangers. Philippe Auclair nous explique pourquoi.
Oui, parce que le 2 janvier est la date anniversaire de la catastrophe de Ibrox, le stade des Rangers. Le 2 janvier 1971, il y a donc 50 ans, jour pour jour, 66 personnes avaient trouvé la mort dans cette catastrophe qui était en fait due à un vent de panique qui avait soufflé dans une tribune des Rangers à la toute fin de leur match contre le Celtic. Et donc 66 personnes avaient péri asphyxiées, piétinées dans des conditions absolument horribles. L'un des plus gros, des plus grosses tragédies de l'histoire du football anglais, de l'histoire du football tout court, et qu'on a tendance parfois un petit peu à oublier. On pense beaucoup à Hillsborough, on pense à Hillsborough, on pense à Bradford, mais on oublie souvent le désastre d'Ibrox. C'était donc en 1971. Et aujourd'hui, les deux équipes du Celtic et du Rangers ont rendu leur hommage à ces 66 victimes de cette terrible tragédie, donc survenue il y a de cela 50 ans exactement. Une des pages noires de l'histoire du football écossais.
Et les Celtic Rangers ont gagné 1-0 contre les Glasgow Celtic. Et puis en Espagne, il y avait 4 matchs hier. Le Real Madrid a battu le Celta Vigo 2-0 et passe en tête. En Allemagne, une rétro maintenant avec le Bayern de Munich qui a connu une année 2020 assez spectaculaire. À nouveau, on écoute le reportage de Marie-Amélie Motte.
2020 restera longtemps gravé dans la mémoire des supporters du Bayern Munich. En Allemagne, on se demande même si l'équipe actuelle n'est pas la plus belle, la plus grande de l'histoire du club. 5 trophées remportés en 2020. Le championnat pour commencer. Après un début de saison compliqué, le Bayern se remet en marche grâce à l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc. Les Munichois sont leaders avant la pause due au coronavirus et ils sont sacrés champions pour la 30e fois de leur histoire le 16 juin après une victoire 1-0 contre le Werder Bremen. 2 mois plus tard, ils remportent la Ligue des Champions 1-0 également face au Paris Saint-Germain. 7 ans que les supporters attendaient ce titre. Alors même si cette édition 2019-2020 a été très particulière avec le fameux Final 8 à Lisbonne en août, le Bayern a survolé la compétition. 11 matchs, 11 victoires, dont celle historique face au FC Barcelone. 8-2 en quart de finale. L'équipe emmenée par Manuel Neuer s'est également adjugée la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne et la Super Coupe d'Europe. 2020, année exceptionnelle pour le Bayern. Une seule défaite et un peu plus de 3 buts par match en moyenne. Et l'artificier numéro 1 des Munichois, c'est l'incontournable Robert Lewandowski. À 32 ans, le Polonais a inscrit 45 buts en 2020 et il a été élu meilleur joueur de l'année par l'UEFA et la FIFA.
Et puis en France, il y a un nouveau coach au sein du Paris Saint-Germain et c'est Olivier Pron pour RFI qui nous le présente. Maurizio Pochettino.
Adepte d'un jeu de mouvement intense et pressant, homme de compromis, proche des joueurs, Mauricio Pochettino était annoncé depuis quelques mois parmi les prétendants à la succession de Thomas Tuchel. Voilà qui est fait. Si l'Argentin n'a pas gagné encore le moindre titre en 10 ans de banc de l'Espagnol Barcelone à Tottenham, en passant par Southampton, son travail est salué par tous, notamment au cours de ses 5 années passées chez les Spurs, qu'il ancre dans le top 5, voire 4 de la Première Ligue et emmène en finale de la Ligue des Champions en 2019, avant d'en être remercié 5 mois plus tard après un mauvais début de saison. C'était il y a un peu plus d'un an. Depuis, son nom a circulé à Benfica, Newcastle, Manchester United, souvent, mais aussi à Barcelone, Valence, Monaco et au Real Madrid. C'est finalement à Paris qu'il atterrit, club qu'il connaît bien, pour y avoir joué 2 saisons et remporté la Coupe de France en 2003, laissant l'image d'un défenseur central apprécié, d'un capitaine écouté et respecté. Une demi-saison à Bordeaux plus tard, il avait quitté la Ligue 1 en 2004 après 81 matchs disputés et 5 buts inscrits. Il se disait à la recherche d'un nouveau défi depuis quelques mois. Le PSG en est un. Il sait qu'il faut non seulement y gagner, mais y plaire.
Et puis Raymond Domenech, lui, a été présenté officiellement comme entraîneur du FC Nantes. Sarah Loubacouche, RFI.
L'ancien sélectionneur des Bleus, il officie à présent au FC Nantes. Il a pour mission de sauver les Canaries, 16e au classement de Ligue 1. Il a dirigé un premier entraînement. Domenech accueilli plus que froidement par les supporters nantais qui ont manifesté leur mécontentement contre le président Kita en marge de la conférence de presse.
À l'heure actuelle, ça fait partie des ingrédients de la vie du club. Moi, j'espère une chose, c'est que à travers ce qu'on va montrer sur le terrain, on va réunir tout le monde et que tout se passera bien. C'est mon seul souci, il va être sur le terrain. Les entraîneurs, on est tous des éternels optimistes. C'est-à-dire, on est là, on a envie de faire quelque chose de bien. On sait très bien qu'il y a les résultats toujours qui font qu'il y a des choses qui passent moins bien. Mais je compte pas, je me dis pas, je suis le 17e, puis il y aura un 18e. Mais il y aura forcément un 18e et un 19e. La vie d'un club, c'est fait que de ça. De succession de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants, c'est partout pareil, c'est comme ça.
C'est comme ça.
Et maintenant, une rétro sur la Formule 1 et le parcours de Lewis Hamilton en 2020. Précision de Marie-Amélie Motte.
Pilote britannique sacré champion du monde pour la 7e fois au terme d'une saison qu'il aura vu battre plusieurs records. Et ce n'est pas terminé, Thomas de Saint-Léger.
Les mots avaient du mal à sortir, alors ses larmes ont parlé. Le 15 novembre dernier, au terme d'une formidable bataille au Grand Prix de Turquie, Lewis Hamilton a remporté l'une des victoires les plus émouvantes de sa carrière, celle qui lui permet d'égaler le maître Michael Schumacher. 7 titres de champion du monde, quelle trajectoire pour ce champion issu d'un milieu modeste, premier pilote noir en Formule 1. Le Britannique a toujours roulé plus vite que ses adversaires et qu'un destin moins brillant. À 35 ans, il détient seul 3 des grands records de la discipline. Record du nombre de pole positions battues en 2017 et porté aujourd'hui à 98, record de victoires établi cette année à 95 et de podium 165 en 266 Grands Prix. Des statistiques hallucinantes que cet homme pressé doit à son talent et aux performances de sa flèche d'argent Mercedes, fiable et rapide, sa monoplace est depuis plusieurs saisons la meilleure du plateau, une ultra domination qui peut agacer adversaires et public, mais dont Lewis Hamilton semble ne jamais se lasser. En 2021, le chasseur de records devrait s'attaquer au plus beau d'entre eux. S'il réussit son grand 8, 8 titres mondiaux, il effacera Schumacher des tablettes. L'année, c'est un clin d'œil où Mick, le fils de la légende allemande, fait ses débuts en Formule 1.
Lewis Hamilton, anobli par la reine d'Angleterre, s'il a été promu au rang de chevalier sur la liste des honneurs du Nouvel An.
Sir Lewis Hamilton, comme vous venez de l'entendre. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Eh bien, comme chaque dimanche, nous revenons sur l'un des événements marquants des derniers jours et une personnalité qui y est associée. Nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Focus aujourd'hui sur l'Argentine et son président Alberto Fernandez. L'Argentine qui vient de rendre légal l'avortement.
Oui, c'est un moment historique. Hein. Mercredi 30 décembre, le Sénat argentin a adopté le projet de loi qui légalise l'interruption volontaire de grossesse en Argentine. L'IVG, qui était illégale jusque-là et qui désormais est autorisée sans condition jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Le président argentin Alberto Fernandez doit encore promulguer le décret d'application de la loi, mais c'est lui qui a initié ce projet de loi. Lui qui est au pouvoir depuis un an seulement. Le texte, il a d'abord été présenté aux députés qui l'ont validé le 11 décembre dernier. Il restait à obtenir l'aval du Sénat, sachant qu'il y a 2 ans et demi, en août 2018, les sénateurs argentins avaient rejeté de 7 voix un texte similaire pour la libéralisation de l'avortement sans condition, hein, puisque la loi argentine, jusque-là, autorise d'avorter en cas de viol ou de danger pour la santé de la femme enceinte, mais pas au-delà. L'enjeu était tout autre là, un libre accès à l'avortement. Le texte, contrairement à celui d'il y a 2 ans qui était arrivé au Parlement via un collectif de quelques 700 organisations féministes, le texte, cette fois, était soutenu par le président de la République, Alberto Fernandez, qui n'était pas le cas avec son prédécesseur, Mauricio Macri, en 2018. Il y a eu aussi, et cela a joué dans la balance, en 2019, un renouvellement partiel du Sénat, ce qui a équilibré les forces politiques. Et les sénateurs ont donc approuvé le projet de loi, cette fois, un vote au milieu de la nuit, au bout de 12 heures de débat intense. Il y a des moments comme cela dans l'histoire d'un pays où se joue une part de son identité, une part de la conscience nationale. On se souvient en France des débats enflammés à l'Assemblée nationale quand l'IVG avait été légalisée à la fin des années 70. Le texte porté par la ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil, sous les colibés et même insultes de certains députés qui étaient hostiles. Là, nous sommes en Argentine, 40 ans plus tard, mais avec les mêmes enjeux de société. Le texte a été approuvé par 38 voix contre 29. Et sur ces questions, les pays d'Amérique latine, où la religion catholique notamment est très ancrée hein, sur ces questions, le continent sud-américain est très conservateur. L'Argentine est le premier grand pays du sous-continent à légaliser ainsi l'avortement, puisque seul Cuba, l'Uruguay, le Guyana et une partie du Mexique autorisent l'interruption volontaire de grossesse sans restriction.
Cette victoire, c'est celle du nouveau président argentin, Alberto Fernandez.
Alors c'est avant tout la victoire de la société civile et de toute la frange progressiste hein, de la société argentine. Mais oui, politiquement parlant, ce succès est celui d'Alberto Fernandez qui a su écouter l'opinion, écouter la jeunesse, hein, là où ses prédécesseurs fermaient les yeux et campaient sur leur position très conservatrice. Alberto Fernandez a 61 ans. Il y a un peu plus d'un an, il a remporté l'élection présidentielle contre le président sortant, qui briguait donc un nouveau mandat, Mauricio Macri. Alberto Fernandez a formé un ticket gagnant, un ticket qui a fait mouche avec l'ancienne présidente du pays, Cristina Kirchner. Elle a dirigé l'Argentine de 2007 à 2015. Elle est aujourd'hui vice-présidente du pays. C'est elle qui passe au second plan cette fois, là où il y a quelques années, Alberto Fernandez l'avait épaulé. Ils s'étaient brouillés, tous les deux. En tout cas, Alberto Fernandez avait pris ses distances à un moment donné avec Cristina Kirchner, mais on a tout mis sur la table pour former ce ticket gagnant. Nous voulons une société égalitaire où tout le monde a les mêmes droits, déclaré il y a un an au moment de prendre ses fonctions à la Casa Rosada, siège de la présidence argentine, le président Alberto Fernandez. Lors d'un séminaire consacré à l'égalité hommes-femmes, on l'avait vu porter une cravate verte, ce vert qui renvoie au foulard vert que portent les militantes pour le droit à l'avortement. Mercredi dernier, quand les sénateurs ont adopté le texte légalisant l'IVG, des scènes de liesse ont éclaté partout en Argentine, à Buenos Aires, hein, mais pas seulement, partout dans les rues, on a vu ce vert du oui à l'avortement. Dès son élection fin 2019, Alberto Fernandez avait promis de présenter un texte légalisant l'IVG. Dès que possible, avait-il dit, il a tenu ses promesses. Alberto Fernandez va pouvoir s'atteler désormais aux autres défis qui se présentent à lui, et celui de l'économie. Alors que le monde se débat depuis bientôt un an face au coronavirus, avec toutes les conséquences que l'on sait, l'Argentine n'y échappe pas. L'Argentine qui doit trouver des solutions pour relancer à tout prix une économie en berne. Le pays est terriblement endetté, des créances monstrueuses dues en partie au Fonds monétaire international, le FMI, tous ces prêts qui ont été consentis ces 10-15 dernières années. Le coût de la dette et son remboursement, eh bien, paralyse toute volonté de relance ou d'investissement de la part de l'État, les pouvoirs publics, puisque toutes les recettes de l'État sont phagocytées par le remboursement de cette dette colossale. Alors depuis son arrivée au pouvoir, Alberto Fernandez n'a cessé de chercher à trouver une solution à ce problème. Il est venu en Europe discuter avec Angela Merkel, chancelière allemande, avec Emmanuel Macron, le président français, discuter à Bruxelles avec les dirigeants de l'Union européenne pour trouver des compromis avec les créanciers, avec le Fonds monétaire international, des négociations ont eu lieu, compliquées, longues, tendues. Un accord a pu être trouvé en août dernier et une partie de cette dette, qui se chiffre en centaines de milliards de dollars, a pu être restructurée, ce qui a donné un petit peu d'air aux finances de l'État. L'Argentine n'était vraiment pas loin du défaut de paiement, mais il faut dire que l'urgence est partout en ce moment, bien au-delà du remboursement de la dette. La pauvreté qui gagne du terrain avec des enfants, des familles qui ne sont pas loin de mourir de faim dans les provinces du nord de l'Argentine. Alberto Fernandez a débloqué des aides, des programmes d'urgence. Il veut sortir le pays de ce marasme, redonner à l'Argentine un élan, une fierté, sortir le pays de la misère, retrouver de la dignité. Et en permettant la légalisation de l'avortement, eh bien, il a fait là un premier pas, un pas plus que symbolique. Hein. C'est une dynamique qui pourrait rejaillir bien au-delà de la loi, un lien de confiance qu'il a noué, en quelque sorte, avec les femmes, les féministes, avec le peuple argentin et avec toutes les jeunes générations du pays.
Et voilà, on va parler maintenant de cinéma avec le film How to be a Good Wife qui passe en ce moment sur les écrans en Australie. Et tout de suite, je passe l'antenne à mon collègue Christophe Mallet qui a rencontré le réalisateur.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Alors aujourd'hui, dans le programme sur Radio SBS, on a le plaisir d'avoir Martin Prévost avec nous pour parler de son film en anglais dans le texte « How to be a good wife ». Bonjour Martin Prévost.
Bonjour.
J'ai eu la chance de voir votre film il y a quelques temps, film avec Juliette Binoche entre autres. Travailler avec Juliette Binoche, c'est comment ? Racontez-moi un peu la rencontre et puis comment ça s'est fait en fait.
Alors j'avais un autre projet avec Juliette qui était un film beaucoup plus difficile, qui était un petit peu dans la lignée Séraphine sur un peintre méconnu, un clochard, une histoire magnifique que j'espère faire toujours. Je ne lâche pas mon histoire. Et on devait faire ça ensemble. Et puis, donc le film n'a pas pu se monter financièrement. Et j'ai trouvé cette idée. Et j'ai tout de suite pensé à elle pour la directrice parce que je trouvais que c'est pas quelque chose qu'elle a déjà fait. Et surtout dans ce ton-là un peu léger. C'est un film drôle, hein, joyeux. C'est un film extrêmement ludique et plein de profondeur aussi. Mais c'est un film assez différent de mes autres films. Et j'avais envie d'aller avec elle là-dedans parce que c'est une actrice exceptionnelle. Moi, je me souviens de Juliette. Je l'ai vue au théâtre, dans La Mouette de Tchekhov, mis en scène par Konchalovsky à l'Odéon. On était tous debout. Elle venait de sortir, hein, de faire rendez-vous avec Téchiné. On parlait d'elle. Et je me souviens de Juliette au théâtre, de sa capacité dramatique. C'était très, très exceptionnel. Donc, je savais où je pouvais aller avec elle, tout en commençant avec la comédie et l'emmener petit à petit dans cette découverte de son corps, de son potentiel, de la femme qu'elle est, de la femme incarnée. Et puis, on le voit d'autant plus à la fin. Non, ça a été une expérience assez magnifique, je dois dire.
Il y a même une scène extraordinaire où elle essaye un pantalon. On ne va pas en dire plus.
Oui, il ne faut pas tout raconter.
Non, on ne va pas en raconter, mais cette histoire du pantalon, elle est même juste incroyable, en fait. On va parler
beaucoup
plus loin.
Mère qui m'était j'avais une mère très subversive, hein, ça me vient d'elle. J'avais une mère qui était une Parisienne, qui avait fait les arts déco, et donc mon père l'avait épousée un peu. C'était presque un ovni, si vous voulez, et elle était en pantalon quand j'étais petit. Et mon père était officier de marine, donc c'était un milieu très conservateur, et ma mère venait me chercher à l'école, je me souviens, quand j'étais petit, en pantalon, et tous mes copains, elle avait les cheveux très courts, c'était Jean Siebert, et tous mes copains, ils n'en revenaient pas que j'ai une mère pareille.
Ça devait jaser, comme on disait à l'époque.
Ah oui, ça ne se faisait pas, mais ça ne se faisait pas, c'est fou. Hein.
Si on parle de l'actualité en ce moment, avec le confinement, le Covid, toutes ces choses-là, vous qui êtes un réalisateur, qui êtes au cœur de ça, on a entendu beaucoup de voix, hein, Michel Boujna, May Wen, qui vraiment se sont très, 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 très frustrés.
C'est dur pour eux. Moi, je suis passé un peu au travers, hein, ouais.
Pour vous, en tant que réalisateur, comment vous analysez cette période ? Est-ce que d'un côté, vous le dites, c'est dur pour certains, mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a une certaine créativité qui peut sortir de là aussi ? Est-ce qu'il y a aussi du positif ?
Je pense, mais ça, j'ose pas trop le dire parce que, par exemple, le premier confinement, j'ai la chance d'habiter à la campagne, donc évidemment, je suis pas citadin. Je peux pas dire que ça ait changé grand-chose pour moi, même si j'étais enfermé. J'ai en plus une mère âgée dont je m'occupe, donc ça a été l'occasion pour moi d'être très proche d'elle et j'ai trouvé ça absolument formidable. Je pense que, si vous voulez, j'ai de la ressource. Et pour nous, les artistes, c'est très important de prendre ça en compte et de savoir que c'est aussi dans l'adversité qu'on doit s'exprimer, qu'on doit trouver quelque chose. Donc là-dessus, j'ai peut-être pas le discours ambiant. J'ai écrit mon prochain film, ça y est, c'est fait. Donc le confinement, très égoïstement, a été... j'en parlais d'ailleurs souvent avec Yolande, on se parlait au téléphone, comment tu vas ? Elle me dit, ben moi, ça va bien, je travaille beaucoup. Du coup, on travaille deux fois plus, on n'est pas tenté. J'écris aussi par ailleurs. Donc, c'est des choses qu'on fait dans une extrême solitude. Donc, après ça, je suis évidemment concerné par tout ce qui se passe parce que, d'abord, c'est une très grande catastrophe et qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur la paille. Et ça, c'est très, très grave. Mais en même temps, je ne sais pas comment vous dire, j'ai de l'espoir. Je pense qu'on est en train... que le monde est en train de se transformer, qu'on doit absolument la crise. Ce n'est pas que le Covid, c'est une crise écologique profonde, c'est un changement de société et on doit se réveiller, on doit on doit se réveiller absolument, sinon on va à une catastrophe encore plus grande. Ce n'est que le début. Donc, c'est le moment pour chacun de prendre ses responsabilités et de réfléchir à ce qui se passe. Et je pense que si chacun fait le travail, on arrivera à quelque chose, il me semble. J'ai encore de l'espoir.
Mais c'est vrai qu'on peut le voir, on ne va pas débattre 100 ans là-dessus, mais c'est vrai qu'on peut le voir que dans un monde francophone, on se permet le débat, alors qu'en un monde anglophone, bah, c'est beaucoup moins facile débattre là-dessus.
Bah, nous, c'est la chance qu'on a en France, c'est que de toute façon, s'il y a un truc, tout le monde descend dans la rue. Et c'est très positif. C'est difficile, mais c'est très positif.
Absolument. On peut vous souhaiter quoi pour ce film? Parce qu'il arrive en Australie, il est sorti là, la semaine dernière. Pour vous, c'est intéressant d'avoir un film qui a aussi une deuxième carrière à l'international, où on y pense?
Ah oui. Moi, tous mes films, je me souviens, mon dernier film, c'était Sage-Femme, avec Catherine Deneuve et Catherine Froh. Je me souviens, ça avait très, très bien marché en Australie. Mais je souhaite que mes films continuent à vivre partout, parce que en tout cas, ce film-là, j'y tiens beaucoup parce que il est porteur d'espoir, il est porteur de joie. On a eu un plaisir fou à le faire tous et ça se sent. Et j'ai pu d'ailleurs, nous, on est sortis en mars, 4 jours avant le premier confinement. On a fait un score incroyable et paf, ça s'est arrêté. Et j'ai eu la chance, il est ressorti fin mai. Et là, ça marchait très, très bien. En 3 semaines, on a fait un chiffre formidable. Donc, c'est un film qui, je pense, rallie la pensée féministe, et pas que les femmes, les hommes aussi qui ont cette pensée-là et qui ont cette conscience-là, mais dans la joie. C'est un film qui fait réfléchir, mais qui rend heureux.
Mais voilà, c'est un film qui fait réfléchir, mais qui ne prend pas la tête.
Mais pas prendre la tête, oui, au sens négatif. Je pense que c'est un film qui peut rendre intelligent. Mais en même temps, le MLF, la création du MLF, quand on écoute des femmes comme Christine Delphi, ça se faisait dans la joie. C'est-à-dire, mai 68, c'était aussi dans la joie. Et c'est quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui. Et j'avais envie de retrouver ça, de montrer qu'on peut aussi se battre et dire des choses importantes, tout en ne perdant pas ni le sens de l'humour, ni la joie de vivre.
Absolument, il faut aller voir ce film. How to be a good wife en anglais. La bonne épouse en français. Merci Martin Provost.
Merci à vous.
Mesdemoiselles, un peu de silence s'il vous plaît. Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères.
Rotation de chiffon, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari. Ce qui suppose oubli de soi et bonne humeur.
Arrête!
Au père! Il est tout! Tapez-lui dans le dos!
24 ans de vie commune.
C'est quoi ça?
Mais c'est des lettres d'huissier.
Je peux entrer?
Nous sommes ruinés.
Passez la seconde. La seconde.
Femme au volant, gare au tournant.
Tu vas pas t'y mettre, toi aussi.
Pensez-vous que nous arriverons à sauver l'école?
Si nous ouvrions un nouveau compte, à votre nom.
À vous dire que j'aurai un carnet de chèques... À mon nom.
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline.
Une bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères.
Je veux te revoir.
Non !
Afin de ne pas céder à toutes ses tentations. En deux mots, mains occupées, mauvaises pensées chassées.
Ma mère a dit à mon père qu'elle va monter à Paris rejoindre les féministes.
Les quoi ?
Féministes. C'est qui ?
Les femmes qui veulent être les égales des hommes.
Oh, vous faites de nous des boniches comme vous. Je veux vivre, moi. Je veux être libre.
Les mains en l'air, on se tire !
Je veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi.
Et si ça peut te rassurer, sache que
je suis un as du repassage et tu fais très bien la cuisine.
Tu sais faire la cuisine, toi ?
Vous êtes avec Radio SBS en français.
En fin d'émission, un rappel des grands titres de ce 3 janvier. Les masques sont désormais obligatoires en public et si vous êtes à l'intérieur. En Nouvelle-Galles du Sud, les préoccupations concernant les retards des vaccinations en Grande-Bretagne. 5 joueurs de cricket indiens en isolation après avoir enfreint les règles de biosécurité de Cricket Australia. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous mardi à partir de 13h.
Aimez, partagez,
commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.